En Formule 1, maintenant, tout le monde s'est déplacé aux États-Unis. C'est le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Et je ne sais pas si tout le monde avait regardé les prévisions du temps avant d'arriver, dont notre ami Jacques Villeneuve. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir. Eh bien, non, on n'a pas regardé les prévisions. Je suis arrivé ici en épais avec des chandails, des shorts, des gougounes, mais il fait 10-12 degrés, il pleut. C'est pas le fun.
Ah oui? Fait qu'une petite séance de magasinage, donc, en arrivant?
Ah ben c'est obligatoire. Hein? Non, franchement, c'est surprenant. Les équipes sont surprises aussi. Personne ne s'attendait ou était préparé à ça.
Maintenant, qu'est-ce que ça va donner comme condition de course? Est-ce que, justement, au-delà des vêtements, par rapport au roulement, par rapport à l'adhérence, est-ce que ça change les plans de match de certaines écuries?
Oui, parce qu'il pleut. Il pleut, donc les essais ont été effectués sous la pluie. Demain, devrait pleuvoir pour les qualifications. Et la course, piste sèche, et personne n'aura roulé sous piste sèche. Il fera froid aussi, donc... Ça va être un peu surprenant pour tout le monde. Et ce que l'on voit sous la pluie, c'est que Mercedes est facilement au-dessus du lot et Ferrari est complètement largué.
Ben, je vais reprendre tes mots. Quand tu dis facilement au-dessus du lot, tout a l'air facile pour Mercedes, tout a l'air facile pour Lewis Hamilton. On a l'impression qu'on pourrait presque conduire à sa place puis gagner des courses, Jacques.
Ben, il est serein. Hein? Je dirais l'Allemagne, lorsque elle a commencé à commettre des erreurs, ça l'a aidé psychologiquement Lewis Hamilton. Et ça a permis aussi à Mercedes de mieux travailler. Et maintenant, depuis Singapour, donc après Monza, ils ont une voiture qui est incroyable, équilibrée, qui est Lewis Hamilton, qui est sur un nuage. Donc, quand il est comme ça, il est imbattable.
Est-il fréquent, et je ne sais pas si tu vas être d'accord, je lisais certaines observations de Toto Wolff, le directeur d'écurie chez Mercedes, qui lui disait qu'on n'a pas commencé la saison avec la meilleure voiture. Et est-il fréquent que l'écurie qui n'a pas la meilleure voiture pour commencer a la meilleure pour finir et va chercher un championnat, Jacques?
Oui, mais il faut quand même qu'elle soit proche d'être la meilleure. C'est pas qu'elle n'était pas la meilleure, c'est qu'elle n'était pas équilibrée, elle ne fonctionnait pas. Donc, elle avait tous les atouts, mais ils n'avaient pas réussi à... C'est comme un puzzle là, ou un Lego. Ils ne mettaient pas les bons morceaux ensemble. Et ça leur a pris un certain temps pour lire la notice, pour tout confectionner, parce qu'ils ont raccourci la voiture par rapport à l'année passée. Et donc, en début de saison, on voyait une voiture très rigide à l'avant, qui ne pivotait pas. Ils ont réussi à améliorer le train arrière. Il était collé au sol. Et après Grand Prix, on travaillait sur le train avant. Et maintenant, la voiture, elle est parfaite.
Considérant les résultats obtenus par Mercedes et probablement donc plusieurs voyaient Ferrari comme ceux ayant la meilleure voiture, est-ce que tu penses que ça brasse plus dans les meetings d'introspection puis d'analyse chez Ferrari sur la saison qu'on a peut-être potentiellement échappé?
Oui, ça va être dur à digérer parce que jusqu'en Allemagne, ils étaient en tête du championnat, c'était le championnat de Ferrari et quelque part, ils réussissent à le perdre. C'est pas comme l'année dernière où ils ont essayé d'aller le gagner, mais c'était pas leur championnat. Ils pouvaient peut-être le gagner, donc c'était pas décevant. Cette année, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile à digérer.
Hamilton pourrait remporter un 5e championnat des pilotes en fin de semaine s'il récolte 8 points de plus que Vettel. Bon, ça, c'est pas acquis, mais c'est une question de temps avec 4 courses encore à l'agenda. Mais moi, je voulais te demander, on parle d'un 5e titre mondial, Jacques, il rejoindrait ainsi le Juan Manuel Fangio, qui en a recueilli 5. On sait que Schumacher, entre 94 et 2004, a été 7 fois champion du monde. Est-ce que t'accordes, puis je sais pas si pour toi c'est facile ou difficile de faire un classement, mais l'importance de la place dans l'histoire d'un pilote, et où placerais-tu Hamilton dans ce contexte-là?
Oh, il fait partie des très grands, parce qu'il a toujours été compétitif. Bon, il a toujours été dans les bonnes voitures. Donc, il a su prendre les bonnes décisions et construire son équipe autour de lui. Ça fait partie des grands champions. Mais il a aussi marqué l'histoire parce que c'est le premier pilote noir qui réussit à ce niveau-là en course automobile. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, de toute façon, il va rester dans les annales à vie.
Toi, quand tu t'intéresses à l'histoire de la Formule 1, est-ce que tu trouves qu'il est facile de classer les pilotes par hiérarchie qui a été le meilleur et est-ce que c'est...
Non, les époques sont tellement différentes et il y a beaucoup de feeling hein, là-dedans parce que certains vont être en amour, en extase devant un pilote et donc vont le mettre comme le meilleur, mais il n'y a pas vraiment une vraie construction logique. Comme on parle de Fangio, mais moi, je n'ai pas vu de course de Fangio, je ne sais pas comment c'était, donc c'est très difficile de juger. Tout ce qu'on voit, c'est ses 5 championnats. Pareil pour Schumacher, on voit qu'il a beaucoup de championnats, mais on ne sait pas, est-ce qu'on sait comment il les a gagnés? Donc, certains d'entre nous, oui, on y était, mais c'est trop facile de regarder seulement une feuille de papier et de voir des résultats. Pour être un grand champion, il y a plein de choses qui vont avec.
Grand Prix des États-Unis, Austin au Texas, as-tu l'impression que c'est bel et bien implanté alors qu'il y en a plusieurs qui spéculent sur la possibilité qu'un jour les États-Unis accueillent peut-être 3, 4, 5 courses, il faudra en enlever ailleurs sur le calendrier, là, mais as-tu l'impression que c'est vraiment implanté là, la F1 en sol américain? Là?
Non, on s'est implanté ici parce qu'il y a une grosse population latine aussi, beaucoup d'Italiens, donc des gens qui aiment la F1, mais ça ne représente pas nécessairement les États-Unis au complet. Les États-Unis ne peuvent pas aimer un championnat qui n'a qu'une course aux États-Unis, parce que si on regarde tous les sports, c'est beaucoup de sports, de championnats du monde, mais qui n'évoluent qu'aux États-Unis. Et la F1 ne sera jamais ça.
Un mot sur Charles Leclerc qui commence déjà à parler de son avenir au sein de l'écurie Ferrari et qui dit déjà qu'il n'a pas du tout l'intention d'être le faire-valoir de Vettel. Est-ce que c'est de bonne guerre qu'il le dise, qu'il l'exprime? Est-ce que ça t'agace ou ça peut agacer quelqu'un qui le dise ainsi?
Non, il a raison. On l'a signé pour aller chez Ferrari et lui, ce qu'il veut, c'est construire sa carrière. Commencer chez Ferrari en numéro 2 comme l'ont fait Irvine ou Barrichello, ça veut dire que ça va être à vie, ce niveau-là. Donc, non, il a raison.
Oui. Eh bien, Jacques, sur ça, je te souhaite un excellent week-end. Bon magasinage pour aller t'acheter des culottes longues et puis des remplacer tes gogones. On s'en parle très bientôt. Bon Grand Prix.
Merci. Bye-bye.
Bye-bye, Jacques. Jacques Villeneuve, donc, notre champion du monde de Formule 1 et collaborateur aux amateurs de sport. C'est le temps d'une pause et ensuite de quoi? Bien, on va revenir sur la Série mondiale. On connaît déjà l'identité d'une des deux équipes qui sera impliquée, les Red Sox. Alex Agostino avec nous après la pause.